Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois France Tronet. Peut-être que vous la connaissez déjà, sous son compte Instagram ou son site internet, S'éveiller simplement. Moi en tout cas, je la suis, je suis son travail, je suis son quotidien. À titre personnel, je la trouve inspirante, j'aime beaucoup la voir évoluer avec ses enfants, la façon dont elle les accompagne, la façon dont elle-même, elle peut prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle peut prendre soin de ses enfants, de sa famille, mais encore une fois aussi d'elle-même. Et c'est justement ça, ce dont nous allons parler, c'est le fait de prendre soin. Pour tout vous dire, quand j'ai contacté France au début, je voulais faire un épisode dans la série sur l'épisode sur l'instruction en famille, sur l'IEF. Et donc nous prenons contact et nous convenons de ce rendez-vous pour enregistrer. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de l'enregistrement, je m'aperçois que son histoire est passionnante, d'une part, mais qu'elle va bien au-delà de l'instruction en famille. Que finalement, le sujet de notre échange, même si nous allons parler d'instruction en famille et que je vais revenir dessus, c'est le fait d'oser prendre soin. Ça m'est apparu un petit peu comme une évidence à un moment dans l'épisode, vous l'entendrez juste après, où je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Que ce soit sur l'instruction en famille ou sur son changement de vie, France, sa force, elle et sa famille bien sûr, mais leur force, c'est d'avoir osé prendre soin, osé passer le pas de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et j'ai trouvé ça génial. Je vais maintenant laisser la parole à France pour qu'elle puisse commencer à se présenter elle-même, et je vous souhaite une très bonne écoute.
Moi, je m'appelle France, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis sophrologue et maman de 3 enfants, donc Camille qui a 4 ans et demi, Maxence qui va avoir 3 ans, et Antoine, le petit dernier, qui va avoir 18 mois.
C'est génial ça. C'était un choix d'avoir 3 enfants depuis un moment ?
Alors, c'était un choix. Après, on ne l'a pas imaginé comme ça. On est issus tous les deux avec mon mari d'une famille de 3 enfants. Donc après, est-ce qu'on reproduit un schéma ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tous les deux issus d'une famille de 3 enfants avec des très différents, parce que moi, c'est une famille recomposée, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la même maman et mon mari, ils ont... Il y a eu 2 aînés et puis lui qui a 10 ans et 12 ans d'écart avec son frère et sa sœur. Voilà, donc c'est pas du tout le même schéma que le nôtre. Mais on a toujours voulu des enfants. C'est quelque chose qui était toujours présent. Après, on s'est rencontrés quand on était très très jeunes. On avait 16 ans. Donc forcément, enfin non, je dis forcément, c'est pas un sujet qu'on a abordé. Mais si, ça aurait pu être un sujet qu'on a abordé tout de suite, mais pas du tout. Et puis après, 3 enfants, c'est venu assez vite. Par contre, on n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient aussi rapprochés. Et voilà, la vie a fait que avant d'avoir des enfants, on s'était dit non, les enfants rapprochés, c'est encore pire que des jumeaux, jamais de la vie.
Alors, moi, je t'avoue que, à titre personnel, je me sens pas du tout d'avoir des enfants rapprochés, mais c'est très très personnel. Et pour le coup, j'ai envie de savoir comment on le vit pour le coup d'avoir des enfants rapprochés comme ça quand c'est pas prévu.
Bah en fait, c'était ni prévu ni pas prévu, mais si tu veux, on a eu notre aîné, ça a été très très compliqué les premiers mois. Déjà parce que moi j'ai une histoire assez compliquée avec la maternité, en tant que petite fille, puisque j'ai perdu ma maman quand j'avais 1 an. Donc elle est décédée d'un cancer quand j'avais 1 an, et donc mon papa s'est remarié et j'ai été adoptée ensuite par sa seconde femme quand j'avais 7 ans. Donc voilà, moi la maternité, ça a été toujours un peu, c'était quelque chose de difficile. Enfin, quand je suis devenue maman, si tu veux, je pensais avoir réglé le truc. Et quand je suis devenue maman d'une petite fille, ça a été super violent. Voilà, ça a été super violent parce que maman, déjà, j'avais à l'époque 27 ans. Ma maman est décédée quand elle en avait 30. Donc, ça peut paraître un petit peu bête et rationnellement, ça l'est, ça n'a aucun sens. Mais moi, jusqu'à 30 ans, j'étais un peu... C'était quelque chose qui me faisait vraiment flipper, quoi. J'avais peur de mourir tout le temps. Voilà, je deviens maman d'une petite fille. Donc, dans la famille du côté de mon mari, il n'y avait que des petits garçons. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a 8 cousins-cousines, du coup, mais Camille est la seule fille. Donc, je me dis qu'il y avait il y avait un truc, quoi. Tu vois, il y a un message. Il n'y avait que des garçons. Et puis là, je tombe enceinte d'une petite fille. Et je pensais avoir réglé plein de trucs. Et puis finalement, enfin, je pensais que c'était derrière moi, en fait. Tu me dis, au bout de 25 ans, j'ai réglé tout ce que j'avais à régler. Et en fait, je pense que quand tu deviens parent, je ne sais pas, mais en tout cas maman, ça te saute à la tête, en fait. Si tu n'as pas réglé un truc, tu prends la claque au moment où tu deviens maman, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu un retour de bâton avec notre aîné, où vraiment, ça a été très, très compliqué de moi avec moi-même, de moi avec elle. On a mis du temps à tisser le lien, même si je l'aimais de façon inconditionnelle, mais ça a été difficile de tisser un lien vraiment avec elle, parce que moi, j'avais pas réglé quoi, tout ce que j'avais à régler. J'étais encore vraiment très en colère par rapport à mon histoire. Donc tout ça, il a fallu vraiment bosser dessus. Voilà. Donc, je me suis fait accompagner moi, on s'est fait accompagner en couple aussi, parce que forcément, quand il y en a un des deux qui va pas bien du tout, le couple en prend un coup aussi. Donc, en tout cas, nous, à chaque fois, ça a été comme ça. Je ne sais pas si c'est une source exacte, mais en tout cas, nous, à chaque fois qu'il y en a eu un qui était au fond du trou, bah, forcément, le couple a pris vraiment du plomb dans l'aile aussi, avec un bébé de 6 mois au milieu de tout ça aussi, ce qui n'aide pas. Et puis, en fait, après, la question du deuxième est venue au moment où voilà, tout ça s'est un peu apaisé et où moi, je me suis dit que je serais capable... pas d'aimer de la même façon, parce que je pense qu'on n'aime pas deux enfants de la même façon de toute façon, mais en tout cas d'aimer aussi intensément un deuxième enfant, quoi. Et en fait, on a eu cette chance, les trois fois d'ailleurs, hein, où à chaque fois on s'est dit, bon, ça ne marchera pas de toute façon du premier coup, et en fait, les trois fois, ça marchait du premier coup. Donc c'était plus ou moins attendu, si tu veux, mais c'était désiré, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je m'étais dit, oui, j'avais cette peur aussi au début de ne pas tomber enceinte. Alors pourquoi ? Il n'y avait aucune raison, entre guillemets... que j'aurais pu savoir ou que voilà, il n'y avait pas d'antécédent, il n'y avait rien, mais pourtant c'était une vraie peur pour moi. Et puis voilà, du coup, la question du deuxième, ça arrivait très vite, et Antoine aussi de la même façon, le dernier. Donc c'était désiré, mais pas attendu forcément si proche. C'est particulier, je comprends qu'on ne veuille pas d'enfants rapprochés. Parce que c'est sacrément sportif, et c'est pour ça qu'on me demande beaucoup, est-ce que tu conseillerais d'avoir des enfants rapprochés ? Moi, je conseille pas grand-chose, enfin, puis je pense que c'est vraiment super personnel, en fait. Et puis c'est tellement intime dans la famille, parce que nous, on a un contexte où finalement, ça s'est fait naturellement, et voilà, on dort bien aussi, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que ça s'est bien passé aussi, parce qu'on est dans un contexte particulier... Est-ce que ça se serait bien passé avec trois autres enfants ? Je ne suis pas sûre, tu vois. Donc, voilà. Et puis, bon, maintenant, ils sont encore petits. Donc, peut-être que ça sera compliqué dans quelques mois ou dans quelques années. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une question de contexte, d'enfants, de parents. Ça ne se passe pas forcément toujours bien, comme finalement, ça ne se passe pas forcément toujours bien quand ils ont beaucoup d'écart non plus, quoi. Il n'y a pas de...
Oui, bien sûr, il n'y a pas de recette, en tout cas, miracle. Moi, je sais que, tu vois, comme je te disais juste avant, c'est que moi, ça, je, par rapport à ce que j'ai appris des enfants rapprochés, moi, personnellement, il y a des choses que je ne me sens pas d'affronter, tu vois, de vivre, en tout cas. Notamment, des besoins très, très intenses sur plusieurs enfants comme ça. Moi, je sais que sur mon quota de patience et de d'acceptation, si tu veux, de tout ça, je suis à peu près sûr que c'est pas bon. Donc, vaut mieux pas essayer, mais c'est très personnel. Je connais aussi plein de gens qui sont très, très contents d'avoir fait ce choix-là, soit pour des raisons matérielles ou quoi, mais il y a aussi plein de gens qui en sont ravis, et t'as pas l'air du tout malheureuse de vivre ça.
Non, on est super heureux, mais c'est vrai que ça fait bosser certaines choses, quoi. Et tu parlais, enfin, la patience, les limites que j'avais il y a 4 ans, c'est plus les mêmes maintenant. Tu vois, c'est vraiment, ils m'ont fait bosser sur moi, sur ma patience, sur ma bienveillance, sur mon lâcher prise. Voilà quoi. Il y a des choses effectivement que j'aurais jamais pensé possible il y a 4 ans, quoi. Et puis finalement, bah, tu te retrouves dans une situation où c'est possible. Et puis voilà. Et puis aussi parfois parce que t'as pas le choix, quoi. Mais aussi, tu parles de besoins intenses. Effectivement, ils ont énormément de besoins. Enfin, tout petit. Nous, les derniers ont 15 mois d'écart, donc voilà, 18 mois et 3 mois, c'est super, par exemple, c'est quand même très intense, voilà, il peut y avoir des trucs. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'aussi dans la fratrie, ils ont pris le relais, en fait, entre eux, l'aîné qui s'occupait de l'un ou de l'autre, enfin, qui s'occupait en tout cas, qui allait voir, qui était vraiment aussi accompagnante. voilà, quand il y avait un cas de force majeure où de toute façon tu n'as qu'un corps et deux bras de toute façon, donc voilà, et puis après tu trouves des solutions, tu portes deux enfants en écharpe, voilà, il y a des fois où tu trouves des ressources insoupçonnées où deux enfants sont chacun dans un bras, et puis voilà, après beaucoup d'explications, de verbalisation, voilà, là tout de suite, regarde, je ne peux pas, je m'occupe de ton frère. Voilà, aussi de... Mais bon, de patience aussi, hein, clairement. Mais encore une fois, ça s'apprend parce que je pense que je ne suis pas la même maman qu'il y a 4 ans. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, je ne suis pas du tout la même maman qu'il y a 4 ans. Et ils m'ont appris beaucoup. Voilà. Ils m'apprennent toujours beaucoup d'ailleurs.
Pour le coup, pas besoin d'aller à la salle de sport en portant les...
Ah mais non, mais j'ai repris le sport. Et franchement, je pensais que ça serait une catastrophe. Et ben, en fait, je n'ai pas tant perdu que ça, parce qu'effectivement, on fait du gainage d'une certaine façon et on a les bras pas trop mal développés parce qu'effectivement, ça maintient. Ça maintient, voilà, je cours après les draisiennes. Et mine de rien, ben, ça bosse quand même. Je pensais que ça serait bien, la reprise serait bien plus difficile que ça, finalement.
Et ta grande, elle est en âge d'aller à l'école ?
Oui.
Comment ça se passe ?
Camille, elle a été à l'école même. Mais là, on est en instruction en famille. Elle a commencé à l'école complètement classiquement. En fait, la question en fait, de l'instruction en famille s'était déjà posée parce que c'est une enfant un peu atypique, voilà, avec plein de sensibilité. Donc, la question s'était déjà posée en fait, avant qu'elle rentre à l'école, du coup, à 3 ans et demi, parce qu'elle est relativement début d'année. Donc, elle devait faire sa rentrée à 3 ans et demi. Et puis finalement, on s'est dit, on va essayer dans le système classique, école privée, très sympa, la maîtresse qu'on avait rencontrée, hyper bienveillante, qui nous propose de faire des matinées. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Comme ça, au moins, on aura le choix, tu vois, de se dire, OK, on va voir ce qui se passe, quoi. Et donc, l'année se passe très bien. Demi-journée, ça se passait vraiment très bien. Elle avait ses copines, etc. Donc bon, nous, on regarde ce principe-là vraiment. Et puis, une maîtresse qui s'adaptait vraiment aux besoins des enfants de façon assez exceptionnelle. Hein. Je pense que vraiment, voilà. Et vraiment, tu vois, pour te dire, j'ai envie de remettre notre deuxième à l'école juste pour qu'il ait cette maîtresse tellement elle est incroyable. Parce que c'est vraiment non seulement une très bonne instite et en plus quelqu'un d'extrêmement bienveillant avec tous les enfants dans leur individualité, quoi, ce que j'ai trouvé super, super génial, malgré le fait qu'elle avait des contraintes de 28 enfants, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que donc, l'école propose un saut de classe. Nous, on fait confiance parce qu'on n'avait pas d'avis sur la question, ni vraiment sur la pédagogie de son niveau, on va dire, scolaire, purement scolaire, ni sur sa capacité à s'adapter avec des enfants plus grands, parce que finalement... Nous, on la connaît à la maison, mais c'est difficile, je trouve, de juger de comment elle est à l'école, etc., puisqu'on n'y est pas. Donc, on fait confiance, psychologue scolaire, test, voilà, toute la batterie de réunions pédagogiques. Ça a été extrêmement compliqué, parce qu'a priori, un saut de classe en maternelle, ça ne se fait pas trop. Enfin, en tout cas, alors, chez eux, ça ne se faisait pas trop. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle fait son saut de classe. Donc, elle saute une classe, elle rentre en grande section. Et là, par contre, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Je pense qu'il y a une conjonction de facteurs. Une maîtresse qui a eu beaucoup plus de mal à s'adapter, des enfants plus grands, une classe aussi a priori qui était un petit peu plus rentre-dedans, un petit peu plus avec des violences pour le coup physiques. Et du coup, elle a commencé à développer des TOC, à mâcher, à mordre en fait tout ce qu'elle avait sous la main. Donc, des gommes, des tubes de colle, tout ce qu'elle avait sous la main, des pinceaux. Dès qu'elle allait à l'école, en fait, elle se mettait à tout mordre, de stress, de contrariété, d'ennui aussi. Donc, elle a développé ça. Elle ne mangeait plus. Donc, le matin, en fait, pour partir à l'école, impossible de la faire manger. En fait, Camille, ça a toujours été un enfant qui mangeait beaucoup de tout. Enfin, voilà, on n'a jamais eu de difficultés alimentaires. Et à la rentrée scolaire, au bout de quelques jours, parce qu'au début, elle était très contente hein, de sauter une classe, de trouver d'autres copains. Au bout de quelques jours, ça s'est vite dégradé, quoi. Donc, elle a plus mangé. Terreur nocturne. Alors, les terreurs nocturnes, c'est pas ce qui nous a le plus inquiété, parce qu'elle en avait déjà fait.
Oui, ça arrive.
Voilà, c'était pas forcément si caractéristique que ça, mais couplé effectivement au TOC, des charges en fin de journée, des hurlements, des pleurs le matin. Très compliqué d'aller à l'école. Enfin, quand je dis très compliqué, c'est un euphémisme. Hein. C'est des pleurs, des hurlements, etc. Donc en fait, bah, ça s'est très vite arrêté parce que après une, deux réunions avec la maîtresse, ça s'est fait vite hein, en fait. Hein, on a pris la décision très vite parce que la maîtresse nous dit bah, moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. On ne peut pas faire sauter d'autres classes parce que de toute façon, bah, elle est trop jeune. Parce que nous, de toute façon, on ne voulait plus de saut de classe, ce n'était pas possible. Donc du coup, on a pris la décision assez vite en fait, de la déscolariser. Et on l'a vraiment récupérée vraiment pas bien. Que ce soit physiquement, parce qu'elle dormait très peu, elle mangeait très peu. Et puis psychologiquement, vraiment affectée en fait, par son passage à l'école, parce qu'elle avait été harcelée, enfin tapée, griffée, moquée. Voilà, donc on parle d'enfant de 5 ans, hein, donc c'est quand même, voilà, ça a été ce qu'elle a vécu, ça a été quand même tous les jours revenir avec des griffures, des morsures, des coups. Et puis en plus de bah des violences qu'elle subissait aussi, enfin elle était moquée parce que bah en fait par exemple elle mettait un truc à la bouche, elle mordait, donc c'était un bébé, etc. Et plus bah plus elle était moquée, plus elle était pas bien, plus elle avait ce genre de toc, de comportement, tu vois, très bah nerveux, hein, très nerveux. Et donc on l'a récupéré vraiment plus envie de grand chose en fait. Ça peut paraître fou au bout d'un mois, mais pourtant ça a été le cas. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de faire, je sais pas. Et puis bah, j'en parlais un petit peu sur les réseaux par rapport à la confiance en elle au plus bas. Voilà, parce que bon, après, forcément, ce qu'elle en. Voilà, entre guillemets, nous, quand on est. Même en tant qu'adulte, hein, prendre des violences comme ça. Et la décision s'est vite prise parce que finalement, j'ai dit à mon mari, écoute, nous, en tant qu'adultes, on ne pourrait pas endurer ça. Je veux dire, si c'est un adulte qui te dit. Je pleure tous les matins pour aller au boulot ou qui développe ce genre de troubles, qui mange plus, qui dort plus, on se pose pas la question. On lui dit bah change de taf quoi, en fait, arrête, tu te fais du mal. Et nous on lui dit continue, ça a pas de sens en fait. Donc dès qu'en fait on a mis ça en perspective, on a dit c'est bon, on arrête. Et du coup donc on l'a récupéré en instruction en famille. Et là, du coup, le gros du travail, c'est vraiment de reconstruire, en fait. Tu vas reconstruire un peu l'étincelle, l'envie d'apprendre, mais d'être actrice, en fait, de son apprentissage. Parce que jusque-là, au début, c'était vraiment le petit oisillon, tu sais, qui ne sait pas manger tout seul, qui ouvre la bouche et qui attend qu'on lui dise ce qu'il faut qu'elle fasse, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, là, j'étais... En fait, que son frère, donc le deuxième, n'avait pas encore en âge d'être scolarisé, Maxence, parce qu'il aura 3 ans en janvier, donc il est de 2019, il sera en âge d'être scolarisé à la rentrée. Et vachement acteur dans son apprentissage, il est super moteur, en fait. Et Camille a été dans un truc où elle attendait, en fait, qu'on lui propose de faire des choses. Que, tu vois, elle avait tout à disposition, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce qu'elle avait envie de faire. Et j'ai vu vraiment le switch cette année où, en fait, elle créait beaucoup jusque-là. Faisait beaucoup de peinture, de dessin. Et là, t'as envie de le faire. Oui, bah, vas-y. Et en fait, non, j'ose pas passer le pas. J'ai peur de rater. J'ai peur de pas y arriver. En fait, qu'elle s'était jamais posé la question hein, jusque-là. Donc là, le gros du travail, c'est vraiment de reconstruire un peu voilà, l'étincelle, en fait. Tu vois, de rallumer le feu. D'un peu de, voilà, de faire en sorte qu'elle soit actrice, qu'elle ait envie, que, tu vois, de trouver des trucs qui fassent que... elle redevienne en fait bah, joie de vivre, confiance, etc. Et là, bah, la dernière fois, justement, c'est bête parce que c'est des petites victoires, ça peut paraître très bête, mais là, la dernière fois, on met la musique africaine, et là, elle a commencé à danser. Mais ça faisait des mois, en fait, qu'elle n'avait pas osé, parce que c'est pas une enfant qui est hyper à l'aise avec son corps, tu vois. Mais le fait de l'avoir dansé, je me suis dit, ah, ça, c'est une réussite. Tu vois, parce que voilà, je passe le pas de ouais, de faire quelque chose que je maîtrise pas forcément et que je tente quand même, et je sens bien, tu vois, je me sens assez à l'aise en fait pour me lancer. Voilà, la voir repeindre par exemple, c'est pareil, c'est une autre sens qu'on se pose la question, sans se poser la question, bah effectivement, qu'est-ce qu'on va penser de mon dessin ou de ma peinture, parce qu'on s'en fout, enfin nous on s'en fout. Et donc voilà, donc on reconstruit un petit peu, on essaye de repartir sur des choses qui lui font du bien, quoi. La musique, la peinture.
C'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup. J'ai entendu beaucoup de récits de parents qui avaient déscolarisé, même très tôt. Et j'ai noté deux choses. Il y a ce que tu évoques qui est très clair, quoi. Ce côté un petit peu j'attends, pour reprendre l'expression d'André Stern, j'attends qu'on me remplisse en fait. J'attends qu'on vienne me remplir l'esprit, et peu importe ce que moi je veux, j'attends qu'on est là, je suis comme tu disais, j'attends la béquée. Et l'adulte me mettra bien ce qu'il veut dedans. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, derrière. Une fois qu'on a brisé ce mécanisme d'enthousiasme et de jeu, c'est pas si simple à remettre en place. Mais ça peut revenir très vite aussi, quand même, selon les enfants, selon les sujets, selon les environnements. Et l'autre point, et c'est pour le coup, c'est le sens de ma question qui arrive, l'autre point que j'ai beaucoup noté, c'est aussi une certaine difficulté à refaire confiance aux autres, c'est-à-dire à aller vers les autres, y compris ses pairs, tu vois, de son âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi ?
Pas trop. Après, elle est en contact avec pas mal d'enfants parce qu'elle fait pas mal d'activités extrascolaires, entre guillemets, tu vois, de sport, de musique, etc. Et elle a toujours eu, en fait, et c'est ça aussi qui m'a un peu fait mal, en fait, elle a toujours eu cette confiance dans l'autre. Et par exemple, à l'école, où quand même les enfants étaient très violents avec elle, elle avait toujours ce truc de dire « c'est pas de leur faute, ils savent pas qu'il faut pas être méchant, ils savent pas que les mains c'est fait pour caresser ». Ça a été vraiment, et ça m'a à la fois, d'un côté c'est très positif parce qu'elle voit, enfin elle voit pas la méchanceté, elle voit pas que voilà, c'était des gestes qui étaient impardonnables, mais d'un autre côté, bah, en fait elle a eu cette naïveté, enfin elle l'a toujours, où elle va quand même vers les autres. Ça l'a pas, ça l'empêche pas d'aller vers les autres. Après, elle a aussi des très bonnes copines, du coup, qu'elle s'est faite, elle a gardé des liens avec les copines, du coup, voilà. Donc je pense qu'elle, en tout cas, elle a, pour l'instant, elle n'a pas de mal à aller vers les autres, malgré le fait qu'elle a pris des nions, mais peut-être aussi le fait d'avoir eu aussi des expériences très positives et des très bonnes copines a fait la balance, en fait, un petit peu, de se dire, voilà, il y a quand même des gens qui sont super chouettes, quoi. Donc, voilà. Mais c'est, pour l'instant, le contact social, enfin, en tout cas... pose pas trop, ça l'a pas trop emprunté, et heureusement, parce que c'est vrai que...
C'est dur, hein. C'est pour le coup quand ces deux niveaux sont impactés, et ça arrive malheureusement assez souvent, pour le coup c'est dur, parce qu'en plus le parent pour le coup peut se sentir un peu démuni, parce que c'est complexe, tu veux, quand ton enfant il a plus trop confiance pour jouer tout seul, et puis qu'on peut pas compter sur l'entraînement d'autres enfants, tu vois, pour relancer la machine. Ça peut être compliqué.
La confiance, tu vois, ça a été un vrai sujet. Et justement, parce que c'est plus moi qui ai poussé pour l'instruction en famille, et c'est plus moi qui étais actrice de dire stop que mon mari. Et je lui ai dit, en fait, il faut qu'elle continue à nous faire confiance. Là, elle est en train de nous raconter qu'elle se fait harceler, que, enfin, physiquement et psychologiquement. Et en fait, nous, on ferait rien.
Et qu'elle est violentée, quoi.
Et c'est ça. Et que je lui ai dit, te rends compte que, en fait, on va briser la confiance qu'elle a en nous aussi, parce qu'on est là en fait à regarder ça, à savoir ce qui se passe, parce que alors parfois tu sais pas, donc bon, quand tu sais pas, voilà, j'ai envie de dire, quand tu sais pas tu peux pas savoir, quoi, voilà, tu ne peux pas bouger,
mais là faut pas non plus excuse-moi, j'ouvre la parenthèse, faut pas non plus culpabiliser les parents. Des fois on sait pas ce qui se passe à l'école, et puis l'enfant n'en parle pas, et voilà, donc c'est pas
c'est ça,
pas
non non, mais c'est des fois, bien sûr. Parfois on sait, et effectivement, et parfois on sait et on peut pas prendre de décision aussi. Nous, on a eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir prendre la décision rapidement, parce qu'on est tous les deux indépendants, parce que voilà, on a eu cette chance là aussi de savoir, d'une part parce qu'elle elle a parlé, et que d'une part parce qu'elle verbalise très bien, et ce qui est pas forcément évident non plus à 4 ans, d'avoir eu des témoins adultes aussi. Voilà, il y a plein de choses, de circonstances qui ont été mises en place, mais c'est ce que je disais à mon mari, effectivement, on a tout qui sont mis en place pour le fait qu'on puisse agir, ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement, et c'est important de le dire, mais nous, on avait tout, en fait. On pouvait aussi s'adapter, et ses frères restaient à la maison, tu vois. Donc, on avait déjà les moyens, si tu veux, en termes techniques, qui faisaient qu'on pouvait la garder aussi à la maison.
Écoute, t'anticipes parfaitement ma question suivante. C'est presque... Alors, je précise que France n'a eu aucune liste de questions. Moi, j'ai une trame classique que j'utilise pour ces sujets-là. Et en fait, elle arrive à suivre quand même ma trame sans le savoir.
Transition.
Et justement, ma question, c'était, mais comment vous organisez et comment vous avez vécu matériellement cette organisation qui est parfois vraiment pas évidente, quand même.
Alors nous, la plus grosse difficulté, c'est de concilier des âges différents. Parce que même s'ils sont rapprochés, on a les deux grands, entre guillemets, qui ont d'une part des besoins assez proches, et d'autre part des centres d'intérêt assez proches. C'est assez facile parce que voilà, le deuxième, il prend le train de sa sœur, la roue de sa sœur, si tu veux. Et même si tu adaptes les activités finalement à son niveau à lui, ça se fait. Et le dernier, donc, à 18 mois. Et là, c'est là où ça se complique. Parce que lui, pour le coup, alors déjà, bon, c'est un âge qui est très différent. Hein, et puis, alors lui, c'est pas du tout le même caractère, pas du tout la même... voilà, c'est vraiment le petit garçon physique, moteur, le clown de la fratrie. Mais effectivement, qu'on va pas asseoir pendant une demi-heure pour faire quelque chose. Donc, nous, c'est ça la principale difficulté, parce que le reste, en termes de... On en reviendra en termes de matériel, on va dire, et d'organisation. Mais nous, ça a été ça, d'ailleurs, c'est toujours ça le plus difficile, parce que j'en parle au passé, mais c'est pas du tout passé, c'est complètement actuel. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, déjà, je leur laisse beaucoup d'autonomie. Je fais des ateliers, j'anticipe des ateliers à l'avance, que je leur laisse à dispo. Avec, donc, une fois par semaine, je leur présente les ateliers. Tu vois, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui... Voilà, entre guillemets, ce qui est entre guillemets attendu. Parfois, ils font ce qui est attendu et pas du tout, mais peu importe. Mais voilà, je leur présente les ateliers et je leur laisse beaucoup d'autonomie aux deux grands. Je prends mon truc, je fais, je laisse, je choisis, justement, on y revenait, hein, je choisis mon activité, je suis acteur de mon choix, je fais mon truc, je range, etc. Donc, ils ont beaucoup d'autonomie pour que moi, du coup, je sois aussi disponible pour Antoine. Hein. Voilà, après, Camille et ses frères font la sieste. Donc, c'est le moment où, quand elle a besoin de plus d'accompagnement, je suis là pendant la sieste de ses frères. Du coup, c'est vraiment le moment, entre guillemets, en tête à tête. Après, j'essaye qu'ils aient tous, chacun, un moment avec moi dans la journée. Donc là aussi, c'est parfois un peu un casse-tête, parce que donc Camille, elle a son moment, voilà, comme ses frères font la sieste, elle a forcément 2 heures où on est à peu près tranquille. Donc elle, c'est le moment où c'est facile, parce que finalement, voilà, c'est acté que les plus jeunes font la sieste. Après, celui qui est plus compliqué, finalement, c'est notre deuxième. Donc il est à la place du milieu, qui est souvent compliqué. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que c'est une place qui est difficile, parce qu'effectivement il est un peu entre deux âges, entre deux, voilà, parce que le dernier, de fait, il est beaucoup avec moi aussi, c'est le plus jeune, et du coup, de fait, il est, voilà, il est encore allaité, il a du temps avec moi, c'est moi qui le couche aussi très souvent le soir, donc on lit l'histoire, etc. Le deuxième, il est un petit peu entre deux flots, et c'est lui qui est plus difficile. Tu sais, on s'est rendu compte en fait qu'on le mettait toujours dans un groupe, soit les grands, soit les garçons.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Et que parfois on se scindait les groupes avec mon mari. Donc quand on est deux à gérer, en fait on se scindait lui il était jamais tout seul. Donc on s'est déjà on s'est posé la question, parce que c'est pas forcément toujours évident, mais de se dire est-ce que t'as besoin d'être tout seul. Et il nous le fait remarquer, hein, on a la chance aussi qu'il verbalise très bien, et il va nous dire par exemple sans Camille ou sans Antoine, voilà, il va le dire, et puis il va avoir un comportement entre guillemets inapproprié pour nous montrer voilà, je suis là, quoi. Donc là, c'est les moments où effectivement je le verbalise aussi avec Camille et même Antoine, hein, qui est plus jeune, mais voilà, maintenant vous vous occupez tous les deux, Maxence il a besoin d'un petit moment avec moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a acté vraiment, et qui est super important qu'ils aient chacun ce moment. Alors après, encore une fois, hein, tous les enfants n'ont pas besoin de ce moment là mais eux, ils ont leur petit rituel, et ils l'ont bien compris en fait. Et c'est vrai, on parlait de relais tout à l'heure, mais moi, quand je suis toute seule avec les trois, j'explique à Camille, il faut que tu restes un petit peu avec Antoine pour que je passe du temps avec Maxence. Il en a besoin. Il a besoin de ce temps tête-à-tête. Et puis ensuite, je passerai du temps avec toi. Mais là, pour l'instant, on en est là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Ils arrivent à comprendre ce besoin de l'autre, parce que je pense qu'ils ont le même, finalement. Camille arrive à comprendre qu'il ait besoin de temps, parce qu'elle a besoin de temps, et que je lui accorde ce temps. Donc voilà, mais c'est un casse-tête logistique aussi par moment. Et on a la chance qu'ils jouent bien ensemble quand même.
Je t'avoue que là, quand tu m'en parles, je me dis, attends, ok, d'accord, tous les jours, un temps solo, d'accord, ça, et elle travaille, et elle fait du sport. Et donc, je me permets, je m'autorise à penser qu'il y a aussi une grosse implication du couple, quand même, enfin, des deux parents, quoi.
Alors, en termes de logistique pure et dure, oui, on s'est investis tous les deux. Moi, après, je suis à la maison, on va dire, je garde les enfants 4 journées sur les 5 de la semaine. Après, moi, je travaille beaucoup le soir. Donc, je passe le relais à mon mari vers 18h, 18h30. Et moi, j'enquille avec ma soirée. Voilà, après, oui, mon mari les garde un jour par semaine tout seul. Après, le week-end, on est tous les deux. Donc, moi, je peux travailler en journée ce jour-là. Voilà, on a une grosse organisation. Après, on a un relais parfois familial aussi, les grands-parents. Tu vois, je te dis ça, demain, les grands-parents viennent les garder. Ça nous permet soit de travailler, soit de passer du temps à deux. Important aussi, ça a été très rare. La première année de vie d'Antoine, ça a été, je ne sais même pas si c'est arrivé. Sa première année, ça n'a pas dû arriver. Là, ça commence à revenir. Mais c'est... Voilà, ça a été difficile de confier les trois, en fait. En confier un, on y arrivait très bien. Deux, ça allait. La trois, c'est compliqué. Ça a été compliqué que nos proches osent garder les trois. Voilà, ça a été assez difficile. Là, on arrive parfois à 2 heures. Parfois, on part sur le temps de sieste. Tu vois, on arrive à se dire, ok, on part sur le temps de sieste. Comme ça, la personne qui garde, ne garde que Camille, ce qui est quand même plus facile.
Plus facile.
Alors, c'est que 2 heures, tu vois. C'est que 2 heures, mais ça permet aussi d'avoir un relais et une soupape. Et moi, je sais que j'en ai besoin. Donc, et on essaye d'être à l'écoute des besoins de l'autre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tu vois, on en parlait tout à l'heure après la naissance de Camille, notre aînée. On était tous les deux très auto-centrés sur notre fatigue, sur notre ce qui est normal aussi. Hein, quand on est en souffrance, on est centré sur soi et on a tendance à se replier. Et ça va se mettre dans sa coquille et à mordre un peu, tu vois. En plus de ça, moi, je sais que je suis comme ça. Quand je suis en souffrance, non seulement je me replie sur moi, puis en plus, celui qui veut m'approcher, je mords, quoi. Enfin, pas physiquement, hein, je rassure tout le monde, mais voilà, je suis pas quelqu'un, quand ça va pas bien, j'étais pas vraiment dans le dialogue. Là, nos enfants, ils nous ont appris à être dans le dialogue, tu vois, à être attentifs à leurs besoins à eux, à nos enfants, mais à nos besoins à nous, quoi. Oui, en termes de... Bah oui, nos besoins de personnes, déjà, d'humains, d'être humain tout seul, et puis de couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose... parce qu'après la naissance de notre aînée, je te dis, ça a été très compliqué. Voilà, moi, burn-out maternel, dépression du postpartum, et puis après, dépression en couple aussi, ça a été très compliqué. Et donc là, ça a été les warnings, tu sais. J'ai appris, en fait, ils m'ont appris à connaître mes limites et à ne pas les dépasser. À savoir dire, ok, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin d'une soupape, là j'ai besoin, à le dire en couple aussi, hein, parce que c'est pas facile de se dire, bah là j'y arrive plus. Enfin, moi au début j'arrivais pas à dire j'y arrive plus, parce que je sais pas, je pense que j'avais honte. Si, je sais en fait, quand je me souviens encore de cette réflexion que je m'étais faite quand j'ai accouché, enfin dans les premières semaines, quoi. J'ai dit, mais en fait, t'as voulu ton enfant, bah tu te débrouilles, quoi. Enfin, je veux dire, personne l'a voulu pour toi, maintenant, voilà, c'est à toi de te débrouiller tout seul. Et ça, je trouve que c'est hyper ancré un peu. Enfin, en fait, que nos proches, alors après, on a la chance d'avoir des proches tous très bienveillants, mais ils m'auraient jamais jeté la pierre, tu vois, de me dire, bah t'as besoin d'aide, au contraire. Et si j'avais dit que j'allais pas bien, ils auraient accouru, quoi. Mais c'était moi avec moi où j'arrivais pas à dire, ok, je m'en sors pas. Alors après, par fierté, par pression, je ne sais pas.
Par image un peu, cette image un peu d'épinal de la mère qui est sacrificielle, qui assume tout, qui prend tout sur elle et puis qui a voulu cet enfant aussi.
Parce que ouais, c'est ça, voilà. C'était vraiment donc, ça. Me dire, bah ouais, tu l'as voulu, t'assumes, quoi.
Même si t'en chies, c'est ton
ça,
choix.
C'est ça, ton choix, t'accrois, quoi. En fait, que bon, et là, j'ai vraiment, maintenant, ouais, j'essaie de faire vraiment attention à moi en premier. Ça peut paraître hyper égocentrique, mais même avant le couple, de faire attention à moi. Parce que je sais que si je fais pas attention à moi, je suis pas là pour ni pour mon mari, ni pour les autres, en fait, ni pour mes enfants. Moi, j'arrive pas. Je peux pas. Si moi, je vais pas bien, j'arrive pas à être là pour les autres. Et même dans mon métier, je peux pas être là pour les autres si moi, je suis vide de toute énergie, de toute patience, de toute bienveillance. Donc, j'essaie de me remplir. Tu sais, c'est l'histoire, l'image de la carafe un peu. Hein. Tu ne peux pas donner de l'eau à tes enfants si la carafe, elle est vide. Bah, c'est ça, quoi. J'essaie de remplir ma carafe, de faire des choses qui me font du bien à moi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres.
Bah, tu sais, sur les, que ce soit dans les accompagnements personnels que moi j'ai en tant que thérapeute et ou même dans j'ai un atelier sur le sujet, sur la gestion de l'énergie, tout ça, j'ai souvent cette phrase de dire aux gens que avoir de l'énergie pour les gens qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir, pour moi. C'est le plus beau cadeau. Sauf qu'à un moment, cette énergie, ben, faut bien la remplir. Et c'est pour ça que quand on parle d'égocentrisme, de machin, non, en fait, c'est juste, quand on sait comment ça fonctionne, c'est juste une question de presque de logique, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, en parentalité, je me demande des fois si on n'est pas obligé de passer par ce statut j'ai trop donné, tu vois, pour comprendre que fallait pas autant donner et revenir un peu en arrière et se recalibrer, quoi. J'ai rencontré que très peu de parents qui ont réussi à tout de suite doser, quoi.
Ouais, je pense que c'est valable pas que pour la parentalité. Enfin, tu vois, souvent, t'as besoin d'être un peu dans l'extrême pour trouver le juste milieu, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie, tu vois, que ça soit pour la nourriture, que ça soit pour pas mal de sujets, pour le boulot aussi. Parce que j'ai dû passer par un burn-out au boulot pour me dire « Non, mais attends, tu rigoles, tu vas pas continuer comme ça, en fait. » Tu vois ? En fait, que je savais. Au fond de moi, je savais. Ma petite voix, elle me disait « Mais j'écoutais pas. » Et ça faisait des années que je me disais « Mais non, c'est pas ça que tu veux faire. » Mais en fait, je me disais « Allez, non, continue, c'est bien. Ça se fait bien dans la société. C'est bien pour toi. C'est bien pour faire plaisir à un tel ou un tel. Vas-y, continue, tu sais. » Puis ce truc, genre « No pain, no gain, quoi. » Tu vois. « Vas-y, continue, va à fond, défonce tout. » Enfin non, enfin voilà, c'est un peu caricatural, mais c'était ça, quoi. « Vas-y, continue. De toute façon, si tu veux avoir un bon métier, tu sais, un bon métier, un bon statut, un bon machin, ben non, il faut que t'en chies, quoi. » Et ça, c'est un truc que j'ai déconstruit complètement, quoi. Tu vois, pour moi, tout était laborieux. Tout devait être laborieux pour valoir la peine, en fait. Et en fait, non. Enfin, je veux dire, alors, ça peut être... tu vois, aujourd'hui, on est tous les deux indépendants et on travaille tous les deux et on travaille tous les deux beaucoup. Mais je n'ai pas cette sensation de, justement, no pain, no gain, quoi. Tu sais, d'en chier pour arriver à mon objectif. J'ai l'impression de faire quelque chose qui est juste pour moi et du coup, d'avancer et que... alors, je ne sais pas si j'ai vraiment un objectif, mais en tout cas, que ça se... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Et pour les enfants, finalement, c'est pareil. Enfin, pas dans un truc où c'est laborieux, quoi. Et c'est eux qui m'ont appris ça aussi en me disant, bah, en fait, si ton apprentissage, il est juste pour toi à un moment donné, ça va être fluide. Si par contre, c'est pas le bon moment ou pas le... Voilà, où ça, les planètes sont pas alignées, tu vois, c'est pas le bon moment, pas la bonne compétence, machin. Là, par contre, c'est verrouillé et tu peux tout faire, enfin, voilà, tourner le truc dans tous les sens. Ça passera pas, quoi.
C'est tout le sujet d'être aligné, mais ça demande aussi un travail sur soi, hein, ça demande de bien se connaître, clairement, ça demande de déconstruire beaucoup de choses en termes de messages, en termes d'enfants intérieurs, en termes de beaucoup de choses, en termes de système aussi, enfin voilà, ça demande vraiment de déconstruire énormément de choses, mais en même temps, derrière ça marche, le propos que tu tiens, ça me rappelle vraiment beaucoup un passage dans notre épisode avec André Stern, épisode 13 pour celles et ceux qui voudraient l'écouter, où justement André explique que c'est marrant, on avait un truc qui marchait bien qui est le jeu et l'enthousiasme, et puis on l'a remplacé par la peine et l'effort. C'est assez cocasse, et je pense qu'on confond beaucoup le fait de fournir de l'énergie et de fournir un effort. Ce sont vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut, et surtout en plus, le coût en énergie est beaucoup plus important qu'on fait quelque chose qui demande de l'effort, qui nous demande de l'effort. Donc c'est ça, alors qu'on peut faire énormément de choses qui nous enthousiasment avec finalement une dépense d'énergie globale qui va être assez faible. Mais je pense que tu l'as bien saisi avec l'organisation que tu as. Je m'autorise à penser que si tu n'étais pas dans cette dynamique-là, juste en fait, ça ne passe pas, quoi.
Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Voilà, je pense que si on n'était pas porté par l'enthousiasme, on ne pourrait pas, tu vois. Et que ça soit porté aussi par l'enthousiasme pour nos boulots et puis par l'amour aussi, tu vois, et puis par la famille, en fait. Tu vois, c'est con, mais on est une tribu, en fait, un peu un clan. Et on se porte un peu les uns les autres, tu vois. Et moi, je sais qu'il y a des soirs où je pourrais dire « Oh non, j'ai pas envie de partir. » Et en fait, bah, je suis enthousiaste, j'ai envie d'y aller. Je suis rassurée de les laisser à leur papa aussi, parce que je sais que ça va bien se passer. Tu vois, je sais qu'on a aussi ce truc de dire « Voilà, on se fait confiance. » Et oui, de clan un peu, quoi. Tu vois, de passer le relais, de dire « Ok, on se soutient aussi, parce qu'il y a des moments où c'est pas évident, tu vois, d'aller bosser le soir, la nuit. Enfin, c'est pas forcément toujours facile de se dire ok, bah là on va enchaîner. Mais c'est une force aussi de, voilà, de se sentir soutenu, de et de fonctionner vraiment, c'est ça, en clan, quoi. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, ouais, se connaître soi. Enfin, franchement, moi je fais partie des personnes qui pensent que une psychothérapie, tu sais, au moins une psychothérapie dans une vie ou un accompagnement dans une vie, c'est juste indispensable. Je sais pas si c'est indispensable, mais franchement, c'est un cadeau à se faire, quoi. C'est vraiment un cadeau à se faire. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai arrêté mon travail salarié, parce que, alors, pour revenir juste, remettre dans le contexte, j'étais diplômée dans la finance à la base, tu vois. J'ai bossé 6 mois et ça s'est mal terminé. Et en fait, j'étais repartie dans mon schéma où je me disais, allez, je vais rechercher du boulot, quoi. Et c'est mon mari qui m'a dit, allô, non, en fait, non, ça va pas, en fait, tu veux pas rechercher du travail parce que, en fait, que t'aimes ce que tu fais? Non, je déteste ça. Ok, et t'es en train de me dire, tu vas continuer à bosser là-dedans? et là, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être que non. Et, mais en fait, je fais quoi? Et en fait, tu vois, il fallait que je déconstruise 7 ans d'études après le bac, tu sais. Mais attends, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Au début, c'était ça, tu vois. Et c'est pas pour rien, parce que tu vois, ça m'a construite et ça m'a aussi dit ce que je voulais plus faire. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je vais faire un accompagnement sur moi, tu vois. Je vais réfléchir à ce que je veux faire, ce que je veux plus faire, ça je le savais. c'était beaucoup plus clair ce que je voulais plus faire. Et puis surtout, ben voilà, de me dire, ok, maintenant il va falloir faire la paix avec plein de trucs, quoi. Il y a des trucs que t'as pas digéré, il y a, voilà. Et franchement, ça a été un sacrifice, parce qu'à l'époque, ben, moi du coup, je bossais plus. Mon mari était étudiant, donc il gagnait des cacahuètes. On était tous les deux plus chez nos parents, tu vois. Donc voilà, on vivait ensemble, mais il fallait l'assumer financièrement aussi. Et ça a été un sacrifice en temps, enfin un sacrifice, ouais, si. Un sacrifice financier en tout cas, et puis en temps, de se dire, ok, maintenant il faut travailler sur soi. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Et puis ça m'a ouvert plein de portes, déjà professionnellement, mais aussi au niveau de l'apaisement. Enfin, aujourd'hui, les relations qu'on a en famille, c'est grâce à ça. Parce que moi, je me sens, je me sens apaisée et faire la paix avec son histoire aussi. Il y a des histoires qui sont plus faciles que d'autres, quoi. Voilà, en tout cas, il y a des personnes qui ont plus ou moins de valises, c'est clair. Mais je pense que voilà, on peut faire la paix avec tout ça aussi et pour aller de l'avant, quoi. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, ok, là, t'as beaucoup, beaucoup de valises, mais il y a un moment, tu vas pas rester bloquée là, quoi. T'es là, t'es vivante. Qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer à t'enliser, mais ça a été vraiment un vrai cadeau, ouais, cette thérapie. Enfin, ces thérapies, parce qu'il y en a eu plusieurs. Après, il y en a qui te font avancer plus que d'autres. Et puis, voilà, il y a des personnes qui vont te faire plus avancer que d'autres. Et puis, parfois aussi, des moments où tu n'auras pas l'impression d'avancer beaucoup. Et puis, ça va se débloquer. Tu sais, tu as des espèces de paliers où, en fait, tu as l'impression de stagner pendant quelques semaines, quelques mois. Puis, en fait, à un moment, tu as une espèce de révélation qui n'est pas une révélation. En vrai, ça ne tombe pas du ciel comme ça d'un coup. Mais c'est juste parce que tu as bossé un petit peu derrière et que d'un coup, ça, tout s'éclaire. Tu vois, il y a un truc qui se délie et tu dis « ok ». Mais voilà, il n'y a pas forcément, c'est pareil, on rencontre pas forcément toujours la bonne personne, la première personne. Voilà, ça n'a pas forcément matché. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'ai peur de pas rencontrer la bonne personne. Bah, c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois. Et voilà, il y a des fois, tu vas pas être à l'aise, il y a des fois, c'est comme ça, mais.
Et puis il y a des approches qui correspondent pas non plus, quoi. Je veux dire, c'est. C'est moi, si tu veux, dans mon approche, j'utilise beaucoup la programmation non linguistique et d'autres, en fait, et je compose. Et j'ai déjà rencontré des clients qui étaient plutôt adaptés pour l'hypnothérapie, tu vois, par exemple, ou la sophrologie aussi. Et en fait, déjà aussi, le professionnel peut renvoyer aussi, peut recommander ailleurs, quoi.
C'est drôle que tu parles d'hypnothérapie, parce que justement, moi, j'ai fait appel à l'hypnose. Et en fait, la première séance que j'ai faite... catastrophe. J'ai pas du tout adhéré, machin. Et puis, alors, j'ose pas le dire, tu sais, forcément. J'ose pas dire au mec, écoutez, non, ça a été une catastrophe. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas osé. J'aurais dû, en plus. Et j'en parle avec ma maman, du coup, adoptive, qui, elle, est hypnothérapeute et qui me dit, mais France, il faut le dire, tu sais, on a plein d'approches différentes. Et parfois, alors, moi, sur le coup, j'arrivais pas du tout à visualiser. Donc, ça m'angoissait complètement de pas arriver à visualiser. Et en fait, du coup, j'ai retesté. Et puis, j'explique à l'autre personne, du coup, j'ai pas osé aller voir le même thérapeute. que du coup ça s'était mal passé la première fois pour telle et telle raison, que ça m'avait bloqué de pas arriver à visualiser. Et elle me dit, mais oui, mais en fait, ok, on va faire avec des mots, voilà. Et effectivement, en sophrologie, c'est pareil. Il y a des personnes, voilà, on adapte aussi notre approche, mais c'est pour ça que c'est important de dire, effectivement, voilà, là, j'ai pas accroché, là, j'ai décroché, là, important de le dire, ouais, de dire, effectivement, parce que, bon, d'une part, d'une thérapie, enfin, d'un thérapeute à l'autre, ça peut changer, et puis, on a quand même plusieurs cordes dans notre arc, quoi.
Moi, ce que j'entends quand tu racontes toute cette histoire, c'est que tu as osé prendre soin de toi et ça te permet d'oser prendre soin des tiens, à commencer par ta fille, que tu as osé mettre en instruction en famille. Et ça, je pense que je m'autorise à penser que ce chemin t'a conduit aussi à avoir la possibilité mentale de prendre cette décision. Et pour revenir un peu sur le sujet avant de terminer, je voudrais te demander comment tu organises l'apprentissage pour le coup. Est-ce que vous avez déjà vécu un contrôle? Et comment ça se passe?
Alors non, on n'a pas été du coup contrôlés encore. Je t'avoue que par rapport à Camille, je ne suis pas inquiète sur le niveau, on va dire, des attendus. Voilà, ça me permet de m'enlever un stress aussi. Enfin, tu vois, je n'ai pas ce stress du niveau scolaire pur. Donc, je suis vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, être le plus dans l'accompagnement du coup pour elle, tu sais, de lui faire faire des choses, de lui proposer des choses qui lui font plaisir et qui lui font du bien, que ça soit au niveau des thèmes, des activités. Nous, ce qu'on fait beaucoup et ce que Camille aime beaucoup, c'est fonctionner sous forme de projet. En fait, par exemple, un exemple qui peut paraître bête, mais un gâteau. Faire un gâteau, là, c'est son dernier projet, c'est ça, c'est l'anniversaire de sa grand-mère, là. Donc, elle a fait un gâteau, mais ça peut paraître super bête de dire ok, c'est un gâteau quoi, c'est pas un projet de fou. Bon, déjà elle a 4 ans et demi, donc forcément tu sais, c'est pas, on parle pas de construire la tour Eiffel quoi, mais en fait t'as plein d'étapes et c'est super important. C'est à dire que par exemple, déjà je cherche ma recette, je choisis ma recette, je choisis les ingrédients, je lis ce qu'il faut. Alors Camille, elle est lectrice depuis un moment, donc je lis les ingrédients, je pèse. Déjà je prends les ingrédients qu'il faut, je pèse, je fais les étapes. Tu vois, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est, tu vois, qui permet de structurer, en fait, qui amène à un projet abouti. Ok, j'ai un gâteau, quoi. Et donc, ça peut être ça. Après, ça peut être d'autres choses. Par exemple, c'est elle qui choisit ses projets en fonction de ce qui est juste pour elle, justement. Et ça, ça a été compliqué au début. Dire, ok, je vais faire quoi? Et en fait, ça peut être, là, on a un potager. Donc, préparer le potager pour l'hiver. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais faire mes recherches pour savoir, bah, ok, l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager? Voilà, les oiseaux, comment je voudrais prendre soin des oiseaux cet hiver? Ok, comment on fait? Donc là, par exemple, bah, ce projet-là, je dis ok, trouve tes solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour les oiseaux? Donc je lui ai mis à dispo, tu vois, mon job, entre guillemets, c'est que je mets beaucoup de choses à dispo, tu vois, des encyclopédies, parfois je fais des pré-recherches, tu vois, genre, pour qu'elle n'ait plus qu'à trouver l'info dans un truc qui est moins, un petit peu moins long que 650 pages. Donc voilà, je fais des pré-recherches, mais ok, là, tu essayes de trouver l'info, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce de quoi on a besoin? Est-ce qu'il faut qu'on aille acheter ou est-ce qu'on a déjà? Comment on peut, tu vois, fabriquer effectivement une mangeoire? Ok, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on peut faire avec de la récup? Enfin, voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est de lui mettre à dispo des choses et qu'elle aille chercher l'info aussi. Pas de pré-mâcher tout le temps. Parce que, voilà, je trouve que c'est super important, on disait d'enthousiasme, donc un projet qui lui parle. Après, si ça ne me parle pas à moi, franchement, je m'en fous. Tu vois, c'est pas un truc où je me dis, c'est ce qui est important, c'est que ça lui parle à elle, quoi. Moi, je fais un effort. Tu vois, si vraiment ça ne me parle pas du tout, bon, bah, c'est pas grave. Et après, bah, ouais, de lui mettre à dispo des choses qui lui permettent de faire son petit schmilblick et de revenir vraiment en me disant, ok, bon, on va faire ça, il me faut ça. Et voilà, j'ai besoin d'aide pour telle chose. Et voilà, et ça, c'est super chouette, quoi. C'est vraiment quelque chose que je trouve super important parce que, voilà, j'ai toutes mes étapes pour arriver à mon résultat et ça structure vraiment beaucoup. Après, nous, tout ce qui est formel, etc., on en fait peu, tu vois, très peu. Après, la lecture, on en fait tous les jours parce qu'elle lit tous les jours. Les calculs, ça se fait... Bon, parler de cuisine, hein, tu sais, voilà, 200 grammes, tu pèses 200 grammes, en fait. Hein. Donc, est-ce que quand tu es à 180, est-ce que tu as moins de 200 grammes? Est-ce qu'il faut que tu rajoutes ou est-ce que tu en as trop? Ça peut paraître super bête, mais voilà, ça se passe comme ça. Il faut prendre 3 œufs, même avec Maxence. Hein. Ok, tu sors, il faut 4 œufs, sors-moi 4 œufs. Est-ce que tu en as bien 4? Ok, on vérifie. Et ça se fait vraiment dans le quotidien, quoi.
Je suis très, très proche de cette façon de faire, donc je comprends complètement. Et c'est vrai que, tu vois, tu parlais de projet qui peut paraître ridicule, mais moi, je trouve ça génial, au contraire, justement, de s'enthousiasmer pour un gâteau. Je trouve ça, c'est la force de l'enfance aussi, tu vois. Je trouve ça extrêmement beau. Je voudrais te demander, pour finir un peu cette discussion, Maxence va aller à l'école l'année prochaine, normalement. Enfin, vous y pensez,
parce que de ouais, ce que on a émis l'idée.
Et pour le coup, pour ta fille, comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que vous souhaitez continuer l'instruction en famille? Est-ce que vous souhaitez potentiellement lui reproposer l'école? Comment ça se passe?
Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer l'école aux deux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a déscolarisé Camille, c'est que Maxence, si tu veux, c'était du coup, je ne veux plus du tout aller à l'école. Quand il voyait comment ça se passait pour sa sœur, c'était mais jamais de la vie, j'irai à l'école. Donc c'est aussi une des raisons, c'est dit si on veut qu'ils retournent à l'école un jour, enfin nous on veut rien en fait, mais si on veut leur donner une chance d'avoir le choix, il ne faut pas les dégoûter, ni l'un ni l'autre. Donc c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a dit stop. Donc là, on leur reproposera. On leur proposera, en tout cas pour Maxence, et on reproposera à Camille. S'ils font le choix d'aller à l'école, enfin Camille, elle le fera vraiment de façon éclairée parce qu'elle a connu les deux situations. Donc c'est vrai que ça sera un choix qui sera plus éclairé, même si elle n'aura que 5 ans et que bon. Voilà, Maxence, je pense qu'il ne peut pas trop le faire de façon éclairée. Après, si on a Camille en instruction en famille, je pense qu'on gardera Maxence en instruction en famille aussi. Parce que tout simplement, enfin c'est, ça peut paraître débile, mais ça t'offre une liberté de rythme qui est incroyable. Et du coup, Maxence, je sais par exemple, tu vois que c'est un gros dormeur. Donc le matin, il faudrait qu'il soit prêt à 8 heures pour partir de la maison. À l'instant T, c'est hyper compliqué. Et puis avoir un enfant qui est libre de rythme et l'autre qui est soumis au rythme scolaire, je trouve ça très compliqué dans la logistique. En fait, parce que t'es quand même soumis à faire des allers-retours, parce que bah, il faut qu'il y en ait un qui soit prêt à 8h et l'autre, en fait, bah, c'est pas grave s'il est pas prêt à 8h, tu vois. Et je trouve qu'en termes de gestion familiale, c'est compliqué. Si tous les enfants doivent être prêts au même moment, ça se fait. Enfin, ça se fait plus ou moins facilement, mais voilà. Mais c'est vrai que je me vois pas dire à Alain, bah, ok, tu as le temps de prendre ton petit-déj tranquille, et puis à l'autre de dire, bon, voilà, bah, maintenant, il va falloir se dépêcher, quoi. Je pense qu'en termes de gestion familiale, ça va être compliqué, en termes de gestion dans la fratrie aussi. Donc, très probablement que si on a Camille en instruction en famille, ce qui serait, je pense, qui est très probable. Voilà, après, c'est pas. Voilà, on va laisser le choix, mais en tout cas, on aura la fratrie, tu vois, en instruction en famille, si on peut, si on a l'autorisation. D'avoir. Voilà.
Est-ce que tu as un mot à dire sur. Pour finir, tiens, est-ce que tu as un mot à dire sur cette loi, sur comment tu as vécu l'annonce de cette volonté présidentielle et ce qui en a suivi?
Ça a été difficile pour moi d'entendre ça, tu vois, parce que pour une question de choix, encore une fois, tu vois, de ne pas avoir le choix, en tout cas, qu'il soit très. Parce qu'on peut toujours dire que tu vas avoir le choix, mais. Que ce choix soit fortement conditionné, on va dire. Parce que c'est vrai que voilà, toutes les familles peuvent être soumises aujourd'hui à ce qu'on a vécu avec Camille, tu vois, par exemple. Je pense que voilà, tu peux ne pas te sentir concerné quand tes enfants ne sont pas en instruction en famille et que tu n'as jamais envisagé de faire l'instruction en famille, ce que je conçois, mais alors tout à fait, tu vois. Parce que je comprends vraiment à 100% les parents qui me disent bah, « Moi, ça ne me dit pas du tout. » Et je le comprends tout à fait. Pour plein de raisons, mais c'est vrai que je pense que tu peux toujours être confronté à une situation où en fait ça sera une nécessité, et en fait c'est là où c'est compliqué de plus avoir le choix, ou en tout cas que ça soit un choix soumis à très fortes conditions. Voilà, donc encore une fois, on va voir les décrets, ce qui va être acté finalement. Mais voilà, tous les enfants, pour moi, peuvent se retrouver malheureusement dans la situation dans laquelle s'est retrouvée Camille. Toutes les familles peuvent se retrouver. Voilà, à un moment donné, on ne sait pas de quoi demain sera fait, en fait. Donc, on est tous concernés, tu vois, donc, globalement, pour une question quand il s'agit de liberté. Donc, moi, ça a été compliqué de me dire, OK, on nous prive d'une liberté, encore d'une liberté, tu vois. Et c'est vrai que la liberté, c'est quelque chose pour lequel je milite tellement pour mes enfants, tu vois. Où j'ai envie qu'ils grandissent justement en étant le plus libre possible, d'être qui ils sont, d'aimer ce qu'ils aiment, d'aimer qui ils veulent. Et du coup, là, je me suis sentie super oppressée par ça, quoi. parce que c'est pas du tout dans la lignée de ce qu'on essaye de leur transmettre au quotidien. De dire, OK, soyez qui vous êtes et soyez libre d'être vous-même, en fait. Et pour moi, c'était, ça allait un petit peu moins, mais ça a été l'annonce, ça a été hyper oppressante pour moi, quoi.
Mais écoute, je comprends bien ce que tu as ressenti et on va continuer de garder un œil sur tout ça. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que pour te retrouver, on peut te retrouver sur les réseaux et sur ton site internet avec le nom S'éveiller simplement. Et merci beaucoup, France, pour ton témoignage.
Avec plaisir.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.